nouveau journal des Amériques et d'Haïti. Bonjour Michael Ponge.
Bonjour Joanne Burgel, il est 8h10 à Port-au-Prince et à Washington. Premier jour de travail pour Joe Biden. Ce jeudi, le nouveau président des États-Unis rassembleur et dans l'action qui s'attaque déjà à la question de l'immigration. Priorité législative avec un texte transmis dès hier au Congrès. On en parle avec notre invité, le spécialiste Olivier Richaume. Une refonte des politiques migratoires qui suscite, on va l'entendre, désespoir en Haïti. C'est ce que nous dira Franz Duval, notre confrère du Nouvelliste. Il nous attend à Port-au-Prince. Bienvenue à tous.
Je vous promets la chose suivante. Je serai le président de tous les Américains, tous les Américains. Et je puis vous dire que je me battrai aussi dur pour ceux qui n'ont pas voté pour moi que pour ceux qui l'ont fait.
La promesse du rassemblement du 46e président des États-Unis, Joe Biden, hier sur les marches du Capitole de Washington, là où il y a deux semaines, les pro-Trump ont semé le chaos. Joe Biden investi, qui tend la main à tous les Américains. Et cette jeune femme venue dans la capitale fédérale, qui veut y croire?
Ça va changer des choses pour la nouvelle génération. Cela montre que ces quatre années de haine que nous venons de passer n'affecteront pas le cours de l'histoire de notre pays.
De l'espoir et le début d'une nouvelle ère. C'est un peu le sentiment de la presse américaine que vous avez lu, Romain Lemaresquier.
Oui, la démocratie a triomphé, titre le New York Times, qui précise en dessous, Biden a juré de réparer l'Amérique. Le Washington Post reprend également une phrase du discours d'investiture du nouveau président, l'unité est le chemin. Joe est dans la maison, titre quant à lui le New York Post, qui précise en bas de page que Kamala Harris est devenue hier la première femme vice-présidente. Toute la presse américaine revient sur cette journée, pas comme les autres, la faute au Covid et aux menaces qui pèsent sur la sécurité intérieure. USA Today souligne le ton et le langage employés par le 46e président des États-Unis lors de son discours. Des mots simples, pas de rhétorique explosive, un discours qui s'adressait à tout un peuple, comme il n'a cessé de le répéter, et au cours duquel il a détaillé ses priorités.
Pendant que les pro-Trump étaient eux à Palm Beach, en Floride, venus accueillir le désormais ex-président, un public visiblement pas prêt à saisir la main tendue de Joe Biden.
Ce mouvement dépasse largement Trump. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils disent maintenant Trump est parti, donc c'est fini pour nous. Mais non, Trump a commencé quelque chose qui ne fait que grandir. C'est le mouvement MAGA, Make America Great Again. Et ce mouvement est gigantesque.
Donald Trump et son héritage auquel Joe Biden a décidé de s'attaquer sans attendre. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche a pris plusieurs décisions hier, Romain.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Après une transition totalement ratée, le travail commence, détaille le New York Times. Joe Biden, comme annoncé, a signé toute une série de décrets présidentiels, une quinzaine dans la foulée de son investiture. Retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, retour au sein de l'OMS, entre autres, ou encore l'obligation de porter un masque dans les bâtiments fédéraux, suspension de la construction du mur à la frontière avec le Mexique, annulation du décret qui interdisait à des ressortissants de pays en majorité musulmans d'entrer aux États-Unis. Des décisions qui démontrent la détermination du président à effacer rapidement le legs de Donald Trump, estime le New York Times.
Et parmi les décisions déjà prises, il y a celle de s'attaquer donc à la question de l'immigration aussi, avec une remise à plat de la politique menée jusque-là. Un texte a d'ores et déjà été transmis au Congrès hier. Arim Lipold, expliquez-nous de quoi s'agit-il.
Si le projet de réforme migratoire est validé par le Congrès, les quelques 11 millions de migrants sans statut légal auront pour la première fois une vraie perspective d'obtenir la citoyenneté américaine à travers un parcours de 8 ans. Dans son projet de loi, Joe Biden prévoit aussi d'aider davantage les pays d'Amérique centrale d'où viennent la plupart des migrants qui fuient la précarité et le chômage. Dans ce projet de loi, l'équipe de Joe Biden appelle aussi à étendre le nombre de personnes admises en tant que réfugiées aux États-Unis. Il est aussi question de renforcer la sécurité à la frontière par des moyens technologiques. En attendant que cette loi soit examinée par le Congrès, Joe Biden a aussi signé un décret pour protéger de toute expulsion les 700 000 « Dreamers », comme on les appelle en anglais, ces jeunes adultes qui sont entrés clandestinement aux États-Unis pendant leur enfance et leur permettre d'obtenir des permis de travail.
Arim Lipold, merci. La presse, évidemment, y revient, Romain Lemaresquier, sur ces décisions qui concernent donc l'immigration.
Oui, et pour les familles concernées qui craignaient notamment une expulsion, l'arrivée de Joe Biden est un véritable soulagement, constate le San Francisco Chronicle. Je pleurais, mais de joie, peut-on ainsi lire en une du quotidien californien qui a rencontré une famille salvadorienne, une famille qui a immigré il y a plus de 20 ans aux États-Unis, qui bénéficiait du TPS, le statut de protection temporaire. Vanessa et Enrique Velasco craignaient d'être expulsés, d'être séparés de leurs 3 enfants nés aux États-Unis suite à la décision de Donald Trump de mettre fin à ce statut particulier. Une famille donc soulagée, constate le quotidien, et qui attend désormais que les projets de loi soient validés. Il y a beaucoup de travail à faire pour que le projet de loi soit se transforme en loi, mais au moins ils savent qui nous sommes et ils savent ce qui est en jeu, explique Vanessa. Un soulagement pour des millions d'immigrés pour qui une réélection de Donald Trump pouvait tout simplement signifier la fin du rêve américain.
Merci Romain. Et pour aller plus loin sur ce sujet, on est en ligne avec Olivier Richaume. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 2 en France. L'esprit de ce texte, comme on vient de l'entendre, réenchante-t-il, si je puis dire, le rêve américain ?
Bon, en tout cas, il tranche avec la présidence précédente sur un point, lorsqu'on parle du rêve américain, sur un point très important qui est l'immigration, qui est un peu à l'origine, on va dire, qui fait vraiment partie intégrante de l'identité américaine. Et donc oui, on touche à quelque chose de symboliquement très important, mais aussi d'un point de vue pratique extrêmement important.
Et qui tranche donc avec ce que vous appelez la politique nativiste de Donald Trump, qui tranche aussi, il faut le souligner, avec les années Obama, dont Joe Biden était, on le rappelle, vice-président.
Oui, alors sous la présidence Obama, on avait vu un président qui a essayé d'obtenir une réforme large de l'immigration. Et pour ça, on avait besoin des républicains. Et donc, en général, quand on veut faire un compromis, on essaye de donner à la partie adverse ce qu'ils attendent. Et donc, on a eu beaucoup de déportations. On a eu renforcement de la sécurité à la frontière. Et ça fait toujours partie des négociations avec les républicains. D'ailleurs, Joe Biden a parlé aussi de sécurité à la frontière, même si on utilise plutôt maintenant des techniques différentes. C'est sur les moyens sur lequel on n'a pas d'accord, mais les deux parties s'accordent à dire qu'il y aura encore des déportations et qu'il faut encore renforcer la sécurité à la frontière. Donc ça fait partie des points à négocier.
Plus de 3 millions de personnes, je crois, déportées à cette frontière sous l'ère Obama. Joe Biden avait bien dit, dès la campagne, je ne serai pas vice-président cette fois-ci, mais président, et je prendrai d'autres décisions. Alors dans ce texte, on le disait, dans ce projet de loi, il y a un parcours de 8 ans vers la citoyenneté pour les immigrants qui sont sans statut légal. 8 ans, ça peut paraître peut-être long. On est quoi là, dans le symbole ou bien véritablement dans un changement concret ?
Ah non, c'est un changement très concret. Ça va changer la vie de millions de personnes. On estime qu'il y a environ 11 millions de personnes qui sont en situation irrégulière aux États-Unis, plus tous ceux qui peuvent venir espérer, que ce soit par regroupement familial et autres. Et donc, on ne pouvait pas, pour que les républicains soit d'accord, on ne pouvait pas avoir une procédure trop courte, et puis il faut laisser aussi le temps aux personnes qui sont sur place de faire leurs preuves. Donc 8 ans, c'est un compromis politique, parce qu'il fallait bien trouver un chiffre sur lequel les personnes s'entendent. Mais non, c'est une avancée extrêmement importante pour des millions d'Américains, mais aussi d'un point de vue symbolique. On voit que les États-Unis renouent avec une tradition migratoire qui était la leur avant l'administration Trump.
Il est question aussi dans ce projet de loi de l'aide aux pays d'Amérique centrale. Il y a, si on le comprend bien, une volonté aussi de travailler sur les causes de la migration dans ces pays de départ.
Mais en fait, c'est inévitable. Comme le passage par la citoyenneté, si vous avez 11 millions de personnes qui sont en situation illégale, vous ne pouvez pas faire 11 millions de conduites à la frontière, c'est juste impossible. Et pareil, si vous avez des pays qui sont dans des situations déplorables à vos frontières, les gens qui risquent leur vie dans leur pays feront tout pour partir ou pour sauver leurs enfants. Et donc, il faut absolument stabiliser ces pays d'Amérique centrale, le Guatemala, le Salvador et le Honduras, en particulier pour tous ces jeunes migrants mineurs qui sont envoyés aux États-Unis, parfois tout seuls, au péril de leur vie, parce que tant que ces ces pays ne seront pas stabilisés. Ça fait partie de l'équation, disons, c'est un des facteurs qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas demander des efforts à ces pays au niveau de leurs frontières, au niveau des questions migratoires, si on ne les aide pas aussi à se stabiliser politiquement.
Et le Mexique encourage également Joe Biden à tenir ses engagements en matière d'immigration. Le pays, on le rappelle, sous lequel, sous l'ère Trump, où étaient renvoyés les migrants en attente de jugement de la part des tribunaux américains sur leur sort. Sur ce point précis, que compte faire Joe Biden ? On en a une idée ou pas déjà ?
Non, on ne sait pas encore, mais on sait que c'était une rupture avec, donc ça c'était pour le demandeur d'asile, c'était une rupture comme on n'en avait jamais vu. On ne peut pas demander aux personnes qui cherchent asile aux États-Unis d'attendre au Mexique, de l'autre côté de la frontière, vu que le Mexique n'a pas les moyens financiers ou humains de s'en occuper. Et donc ça crée une situation qui est encore pire. En fait, c'est une situation humanitaire. Lorsque Donald Trump a déclaré que il y avait une urgence et qu'il a envoyé l'armée à la frontière, on s'est rendu compte en fait que l'armée faisait un travail humanitaire, parce que c'est ça dont il y avait besoin. Et donc ce n'est pas une solution. Par contre, ça risque de prendre du temps, parce qu'en fait on ne sait pas quoi faire de ces demandeurs d'asile. Par exemple, il faudrait des endroits pour les maintenir sur le sol américain, parce qu'on a peur qu'il s'évapore dans la nature comme c'était le cas par le passé. Et pour que on puisse statuer sur leur cas, il faut qu'on ait des juges, et donc il faut les recruter. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, et donc voilà, tout ça risque pas de se faire du jour au lendemain.
Ça va pas se régler en effet aussi rapidement que certains le souhaiteraient. Du côté des républicains, certains aussi parlent d'un risque d'appel d'air. Est-ce que c'est une réalité ou pas?
Alors ça c'est l'argument classique des républicains, mais en fait l'appel d'air il est là. En fait, sur la question de l'immigration, on a quand même beaucoup d'hypocrisie, dans le sens où on ne se trouve pas avec 11 millions de personnes en situation illégale si ça n'arrange pas tout le monde. Les employeurs payent ces immigrés illégaux moins cher, les Américains payent leurs produits moins cher, et les Mexicains viennent travailler aux États-Unis, gagner un peu plus d'argent et renvoient dans leur pays, et tout le monde y trouve son compte. Et donc on a un système, en fait, système capitaliste américain, qui se satisfait de cette immigration, on va dire, moins chère. Et donc l'appel d'air, de toute façon, il est là à cause de la grosse différence économique entre les États-Unis et le Mexique. Ça a toujours été une frontière très très poreuse, jusqu'au jour où on a fermé la frontière. Et donc il y a toujours eu des échanges. Et voilà, l'argument républicain ne suffit pas.
Mettre fin donc à l'hypocrisie au sujet, justement, Olivier Richomme, du législateur républicain. Quelle pourrait être sa position quand il s'agira de voter ce projet de loi ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une forte opposition ou pas ?
Bien sûr, on peut avoir une forte opposition de principe ou simplement pour négocier quelque chose d'autre. Par contre, ce qu'on avait vu sous Obama, et c'est pour ça qu'il y a un tout petit espoir, c'est que sous Obama, il y avait déjà eu un projet de loi de réforme de l'immigration qui avait obtenu 60 votes au Sénat. Et donc, on peut espérer que certains républicains soient sensibles à cette question. À l'époque, c'était la Chambre des représentants qui avait bloqué, parce qu'il y avait une majorité républicaine. Maintenant qu'on a une majorité démocrate, peut-être que certains républicains sont prêts à voter une grosse loi de réforme de l'immigration. Par contre, avec le procès de Trump et l'état d'esprit en ce moment du Parti républicain, personne ne sait, vraiment personne ne peut prédire quelle pourrait être l'issue. Mais on a espoir que si ça passe, ça puisse passer maintenant. Alors que Biden vient juste d'être élu, c'est au début de sa présidence que ça risque de passer, si ça a une chance de passer.
D'où peut-être donc cet empressement et cette priorité législative. Olivier Richomme, maître de conférence à l'Université de Lyon 2 en France, merci beaucoup pour votre éclairage. Cette nouvelle politique d'immigration américaine qui est scrutée aussi en Haïti. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef du Nouvelliste. Avec nous, comme chaque jeudi, la communauté haïtienne est très importante aux États-Unis, notamment sur la côte Est. Cette réforme donc à venir, est-elle vue comme une bonne nouvelle en Haïti ?
Totalement, c'est une bonne nouvelle. Les militants qui se sont battus depuis des années pour que le statut des Haïtiens, le TPS, comme on l'appelle, ce statut provisoire qui leur permettait de rester aux États-Unis, se sont félicités hier que le gouvernement du président Biden va envoyer au Congrès rapidement une loi sur l'immigration. Cette loi devait permettre de régulariser plus de 60 000 Haïtiens qui sont en situation irrégulière aux États-Unis, mais qui ont quand quand même un statut, le fameux TPS, mais entre-temps, il y a eu d'autres Haïtiens qui sont en situation irrégulière, qui sont partis et sont restés aux États-Unis. Eux aussi espèrent bénéficier des nouvelles largesses que permettra cette loi. Et puis, il y a les jeunes Haïtiens qui sont nés aux États-Unis, mais qui n'avaient pas de papier, ils sont des dreamers. Il y a aussi des Haïtiens dans cette catégorie. Tous espèrent et attendent une régularisation de leur statut, ce que M. Trump ne leur avait jamais laissé espérer.
De l'espoir. Donc, France, concentrons-nous à présent sur l'actualité haïtienne à proprement parler. À lire dans le Nouvelliste, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui met en garde Haïti dans un communiqué.
Tout à fait, le communiqué a été transmis avant-hier, le Nouvelliste en a fait un article. Nous craignons que l'insécurité persistante, la pauvreté et les inégalités structurelles en Haïti, conjuguées à des tensions politiques croissantes, ne conduisent à un mouvement de mécontentement de la population, suivi d'une répression policière violente et d'autres violations des droits de l'homme. Pouvait-on lire dans ce communiqué daté du 19 janvier? Le communiqué a passé en revue tout ce qui s'est passé en Haïti depuis 2018. Il y a beaucoup de violations des droits humains, particulièrement de la part de la police, de la part des forces de sécurité, aussi de la part de ceux qui bloquaient les routes, qui empêchaient aux gens de circuler normalement. Et le gouvernement haïtien n'a pas encore réagi officiellement à ce communiqué.
L'Agence nationale d'intelligence est en fonction, vous nous dites aussi aujourd'hui, France, et elle surveillerait les opposants haïtiens.
Alors, en réalité, le Nouvelliste a fait l'article, mais c'est le président Jovenel Moïse qui en a fait l'annonce. Nous avons déjà commencé à surveiller beaucoup de choses dans le pays et la situation a changé. Ce qui s'était passé en 2018, 2019 et 2020 ne sera plus réalisable. Ceux qui financent les manifestations, on va les arrêter, a dit en substance le président Moïse qui faisait une déclaration devant la presse et mardi.
Franz Duval, merci beaucoup. Chaque jeudi, avec nous dans le rendez-vous d'Haïti et des Amériques.
Le journal de l'Outre-mer.
Et ce rendez-vous s'achève, bien sûr, avec des nouvelles des Caraïbes. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Mickaël.
À la une, peut-être un non-lieu dans l'affaire de la chlordécone. Les trois associations qui ont porté plainte clament leur colère et leur incompréhension.
Oui, ce dossier d'empoisonnement pourrait se conclure par un non-lieu. La justice estimant, en l'occurrence un juge d'instruction parisien, estimant qu'il y a prescription au grand scandale, vous allez les entendre, de Pascal Tourbillon de l'Assopamar et de Louis Boutrin de l'Association pour une écologie urbaine.
On veut nous dire que les faits ne seront pas examinés, qu'on ne va pas établir les responsabilités, qu'on ne dira pas qui est-ce qui a fait quoi, alors qu'on connaît. Et puis on nous dit, mais pourquoi? Parce qu'il y aurait eu prescription. Alors ça fait 14 ans que nous demandons de procédure en procédure, et puis aujourd'hui, après 14-15 ans, on nous dit que c'est prescrit. En tout cas, nous allons épuiser toutes les voies de droit qu'il y a, mais je crois que les déclarations de la présidente du tribunal de Paris, là, enfin, sont de nature à mettre les gens en colère, et la population aussi.
Si véritablement nous sommes dans un état de droit, si véritablement la France est le pays des droits de l'homme et que les lois de la République doivent s'appliquer de plein droit en Martinique, cela veut dire que la justice doit passer. Ça veut dire également qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter cette voie vers laquelle on s'achemine, qui est la voie du non-lieu. Ça veut dire que quand on a 95% de la population en Guadeloupe et 92% actuellement contaminée au chlordécone, quand on a des ouvriers agricoles qui meurent dans nos campagnes à cause du chlordécone, que ce crime contre la Martinique, ce crime contre l'environnement ne peut pas rester impuni.
Interview réalisée par Christine Cupit. Direction maintenant la Guadeloupe avec le point sur ce vaste réseau de trafic de drogue et d'armes démantelé en Guadeloupe. Donc, Eric Stimfling.
2 ans de filature, de surveillance, d'écoute téléphonique qui ont permis d'identifier, de localiser et finalement de démanteler ce qui apparaît aujourd'hui comme l'un des plus gros réseaux de trafic de stupéfiants, mais aussi d'armes à feu de l'archipel. Un réseau qui gravitait autour de l'Ice Palace, un établissement de nuit de Jarry, son gérant, ainsi que plusieurs personnes de son entourage professionnel, font partie des 25 personnes interpellées lundi en Guadeloupe. Et encore, il ne s'agit là que d'un chiffre provisoire. Au moins 2 autres interpellations ont eu lieu mardi. Mais le dossier ne se limite pas aux gens de la nuit. Il y a aussi ceux qui s'occupaient de la logistique, notamment aérienne, ont déjà été entendus ou sont en cours d'audition. Un responsable de la sûreté d'Assister Cargo, un responsable fret de Paul Caraïbe, un employé d'Air France basé à Saint-Martin et un douanier. S'y explique, selon toute vraisemblance, ce conteneur contenant 240 kilos de cocaïne expédié par voie aérienne de Pointe-à-Pitre vers Paris. On devrait en savoir davantage après la conférence de presse de Renaud Gödel. Le patron de la GIRS sera en Guadeloupe vendredi.
Bon après-midi, Michael. À demain.
Bonne journée à vous, Benoît. Et à demain, dans le rendez-vous d'Haïti et des Amériques après l'immigration aujourd'hui, on s'intéressera demain à la politique de cybersécurité du nouveau président américain, Joe Biden. En attendant, retrouvez-nous sur notre compte Twitter, RFI Amérique.